Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je fais parler des pères de paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose d'écouter ou de réécouter l'épisode avec Martin Vinclair. Je suis très heureux de vous rediffuser cet épisode parce qu'il est un peu spécial pour deux raisons. La première, c'est qu'on a également fait avec lui un épisode de The Boys Club, le podcast masculinité de Mademoiselle, que je reprends à ma sauce à la rentrée. L'occasion d'aller le réécouter si le sujet de la masculinité vous intéresse, je vous mets un lien dans les notes de cet épisode et surtout de vous abonner au podcast en cherchant The Boys Club dans votre appli parce qu'il va y avoir du nouveau dans ce podcast très prochainement. L'autre raison, c'est que Martin est le premier invité dont le propre fils est passé dans Histoire de Daron, puisque Thomas est venu me parler de l'accouchement physiologique de sa femme il y a quelques mois. Je vous mets également un lien dans les notes de cet épisode si vous voulez écouter l'épisode père-fils.
Il vous l'expliquera lui-même avec ses propres mots, mais Martin Vinclair est docteur, gynécologue, auteur de plusieurs livres très importants, et notamment Le cœur des femmes. Je vous mets un lien vers une chronique vidéo de Mimi sur Mademoiselle dans les notes de ce podcast. Martin Vinclair, dont le vrai nom est Marc Zaffran, a aujourd'hui 64 ans et il est papa de 6 enfants. On discute ensemble bien sûr de son parcours vers la daronie, de l'impact de son métier de docteur sur son rôle de père, de la transition même d'un de ses enfants et comment il a accueilli cette annonce, et de plein d'autres sujets. J'ai adoré faire cet entretien avec Martin et j'espère que vous apprécierez l'écouter.
Je profite de cette intro pour vous dire de vous abonner à ma newsletter. Après mon départ de Mademoiselle mi-juillet, si vous n'étiez pas au courant, je vous mets un lien dans les notes du podcast. J'ai décidé de faire de ce média mon moyen principal pour discuter et échanger avec vous et aussi de vous tenir au courant de mes projets à venir. Vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Merci à vous, bonne semaine et à lundi prochain sur Histoire de Daron pour une nouvelle rediffusion estivale. On est avec Martin Vinclair. Salut Martin.
Salut.
Ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va très bien. Martin, on vient de passer un peu plus d'une heure avec Mimi à parler de masculinité et de plein d'autres choses dans le podcast The Boys Club. Donc je vous invite à venir écouter. Il y aura le lien dans les notes du podcast, etc., etc. Et en fait, c'est marrant parce que quand Mimi m'a dit « Ah, il y a Martin Vinclair qui vit en France et j'aimerais bien lui faire faire un Boys Club », elle m'a dit « Est-ce que tu aimerais bien faire un daron ?» Et je me suis dit « Mais Martin, est-ce que Martin a des enfants ?» Elle m'a dit « Il en a 6
!» Oui, j'en ai 6, ouais.
Alors, je suis désolé de te faire ça, mais apparemment, tu as un truc très particulier pour te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu veux bien te refaire cet exercice qu'on t'a demandé de faire tout à l'heure?
Je m'appelle Marc Zaffran, en réalité. J'écris des livres sous le pseudonyme de Martin Vinclair depuis 1985. Enfin, j'ai publié mon premier livre en 89. J'ai été médecin généraliste à la campagne et à l'hôpital entre 81 et 2008. À l'hôpital, j'étais dans un centre de planification et j'étais généraliste de campagne. Et puis, je suis parti vivre au Québec en 2009. Ça fait donc 10 ans que je vis au Québec. Et mes champs d'intérêt, à la fois en tant que enseignant, conférencier, écrivain, médecin, c'est donc la santé des femmes, c'est l'éthique. J'ai fait une maîtrise de bioéthique au programme de bioéthique de l'Université de Montréal. Et c'est la narration, parce que la narration m'intéresse beaucoup. J'ai aussi beaucoup écrit de livres et d'articles sur les séries télé. Mais donc voilà, ça m'intéresse. La santé, la narration, l'éthique sont les choses sur lesquelles j'interviens le plus souvent parce que c'est ce que je connais le mieux.
On est donc là pour narrer ton histoire de daron.
Pour mon histoire de daron. C'est la première fois qu'on me traite de daron.
Pourquoi c'est pas une insulte?
Non, mais c'est vrai. Ah non, c'est pas une insulte. Okay. Mais c'est juste que c'est un mot de John. et moi, je sais pas. Moi, je disais pas ça.
Tu disais quoi?
Ben, on disait rien, hein, si tu veux. On dirait histoire de père, mais mes fils, ils disent daron. Ça fait pas très longtemps que je les ai entendus dire ça, d'ailleurs.
Ils ont quel âge, alors, tes enfants?
Alors, moi, j'ai des enfants, j'ai 6 enfants. L'aînée est une fille qui a 38 ans. qui va avoir 38 ans. Le plus jeune est un garçon qui a 21 ans. Et donc, il y en a 4 autres entre les deux. Il y a une autre fille et il y a 3 autres garçons.
T'as pas chômé?
C'est surtout leurs mères, leurs mères, puisque j'ai été marié 2 fois et j'ai eu 3 enfants à chaque fois avec chaque compagne. C'est surtout elles qui n'ont pas chômé. Moi, j'ai fait mon boulot, mais comment dirais-je, c'est pas. J'ai jamais mis ma vie en jeu. Hein, je veux dire, j'oublie jamais que une femme enceinte, c'est même si c'est pas très 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 fréquent, c'est quand même un risque vital d'être enceinte.
On va en reparler un petit peu après, si tu veux bien, parce que je pense que ça a aussi des incidences avec avec ton métier, d'une manière générale. Avant ça, j'aimerais bien savoir, ça te vient d'où, ça t'est venu d'où, l'envie d'enfant ? Est-ce que c'est...
Je ne sais pas, parce que quand j'étais adolescent, j'étais sûr que je serais stérile.
Ok.
C'est bizarre, hein ?
Ah, mais c'est marrant.
Ouais, c'est marrant. Et puis...
C'était une peur que j'avais aussi, tiens.
Ouais, je pensais... C'était pas une peur, hein. C'était le sentiment que je risquais d'être stérile et qu'il fallait que je me prépare à ça. Et ça me posait pas de problème majeur parce que moi, j'avais... Je pense que c'était l'histoire familiale, mais c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y avait des histoires de stérilité dans la famille.
Okay.
Donc je pense que on avait dû me transmettre ça, ou j'avais chopé ça quelque part. L'éventualité d'être stérile, c'était quelque chose qui pouvait arriver.
Dans une discussion.
Ouais, ou dans des trucs, des fois c'est dans les trucs non dits, hein, c'est très subtil. Mais par exemple, j'ai une sœur aînée qui était la fille de ma mère de son premier mariage. Et que mon père a quasiment adopté. Donc pour moi, l'adoption, c'était quelque chose qui allait qui allait sous le sens. Et d'ailleurs, avec ma seconde épouse, elle avait 2 fils que j'ai élevés en même temps que mes enfants et nos enfants. Et que, je veux dire, pour moi, c'était m'occuper d'eux, c'était comme m'occuper de mes enfants. Il n'y avait pas de différence.
Et donc qu'est-ce qui se passe entre le moment où t'es adolescent et tu penses être stérile et le moment où tu finis par te dire tiens pourquoi pas avoir des enfants.
Ce qui se passe c'est que tu te mets à vivre avec une femme qui a envie d'enfants puis toi aussi t'es d'accord. Enfin moi j'avais peut-être au tout début des objections sur le moment de les faire, mais parce que j'étais étudiant en médecine, je voulais être un peu autonome financièrement, mais fondamentalement, j'étais pas opposé au fait d'avoir des enfants. Au contraire, j'ai été un enfant plutôt choyé, aimé. Ça me faisait pas peur. Je savais qu'on pouvait être. J'avais un père que j'avais toujours ressenti comme étant extrêmement bienveillant et soignant. Donc ça me posait pas de problème. J'avais un bon modèle dans ce domaine-là. Et voilà. Donc je me suis marié. Puis on a eu des enfants parce que c'était des choses que. Et c'était une autre époque aussi, c'était des choses qui pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup plus qu'aujourd'hui, allaient de soi. Je serais un homme de 25 ou 30 ans aujourd'hui, je pense pas que ça irait de soi de la même manière. Et je comprends très bien les gens qui aujourd'hui disent « je ne veux pas avoir d'enfant ». C'est pas, je crois pas que ce soit intrinsèquement juste ou injuste d'avoir ou de ne pas avoir d'enfant. Je pense que c'est vraiment... Très contextuel, c'est très individuel. Je suis scandalisé qu'on empêche des personnes qui disent « je ne veux pas avoir d'enfant et je désire me faire stériliser ». Je suis scandalisé qu'on les culpabilise ou qu'on les empêche de le faire. Pour moi, vraiment, je comprends très bien que ce ne soit pas quelque chose qui soit pour tout le monde.
J'ai moi-même subi une vasectomie il y a quelques mois maintenant. Et en fait, j'en ai parlé dans un article sur Rocky, qui est le magazine Après Mademoiselle qu'on vient de lancer. Et dans les commentaires, il y a une lectrice qui disait qu'en fait, son mec, donc ils n'ont pas encore d'enfant, cherche à se faire stériliser depuis 10 ans apparemment et a fait 8 chirurgiens différents qui refusent de le faire.
C'est scandaleux parce que la loi l'autorise et il n'y a aucune raison qu'on le lui refuse. Mais on est encore dans le paternalisme médical. Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, pensent les médecins. et il refuse quelque chose qui, enfin, alors qu'on refuse jamais si un jeune homme de 20 ans vient avec son ami de 18 en disant nous avons décidé de faire un enfant. Là, on lui dit pas, oh là là, c'est sérieux. On dit, c'est sérieux si tu te fais stériliser. Alors que avoir un enfant, c'est quand même plus sérieux parce que le gamin, il a rien demandé. Et puis, ça met en cause, encore une fois, ton partenaire et puis cet enfant ou ses enfants qui n'ont rien demandé. C'est quand même beaucoup plus lourd de conséquences. Mais voilà, c'est pas logique, hein. C'est idéologique. C'est inadmissible, mais malheureusement, c'est encore comme ça.
T'as des souvenirs aujourd'hui de la façon dont s'est passée la première grossesse ?
Oh oui, tout à fait. Moi, ça m'a beaucoup. J'étais très ému. Et puis, j'ai parlé à ma fille. Je ne savais pas que c'était une fille, je crois. Hein. Je ne me souviens pas, mais je ne crois pas qu'on savait si c'était une fille ou un garçon. J'ai parlé à ma fille. Oui, non, parce que je disais salut bébé. Donc, je m'approchais très près du ventre de sa mère et je disais salut bébé. Je lui parlais. Et j'ai un souvenir tout à fait merveilleux de sa naissance parce que quand elle est née, ça s'est passé dans une maternité plutôt bienveillante qui était la maternité du Mans avec un gynécologue obstétricien extrêmement bienveillant. Quand ma fille est née, je me souviens très précisément qu'on me l'a confié pour lui donner son premier bain. Et qu'en la posant dans l'eau tiède, je lui dis « Salut bébé !» Elle a ouvert les yeux très grands et m'a regardé. Alors je ne sais pas si c'était juste réflexe parce que je lui parlais ou c'est parce qu'elle avait reconnu ma voix. Mais en tout cas, c'est très satisfaisant comme sentiment. C'est un bébé que j'ai beaucoup bercé, à qui j'ai, enfin tous, hein, je les ai bercés, je leur ai donné le biberon quand ils ont pris le biberon, je leur ai raconté des histoires. J'ai toujours été extrêmement proche de mes enfants quand ils étaient très petits. Bon, après la vie a fait que c'était moins facile quand ils ont été plus grands, mais enfin j'aime ça les bébés. Moi, les bébés me posent pas de problème. Je sais les porter. Ça m'arrive de me retrouver avec des gens qui ont un bébé qui pleure et puis je dis est-ce que vous me laissez essayer. Puis je prends le bébé, je lui parle et boum, il s'arrête de pleurer. Parce que quand on a une certaine expérience, on arrive à moduler sa voix pour.
T'as une voix grave aussi.
J'ai un peu de bouteille. J'ai des heures de vol, comme on dit.
Est-ce que t'as la sensation que, à quel point en fait t'as la sensation que d'avoir des enfants t'a transformé le père, enfin l'homme que t'as pu être en fait, avec le recul.
Je suis sûr que ça m'a transformé. Ouais. C'est très difficile de savoir comment, parce que. Mais tu sais, j'ai lu des trucs, par exemple il y a des livres sur le cerveau, sur la transformation, sur le cerveau. Une autrice américaine s'appelle Louane Brizendine qui a écrit deux livres, Le cerveau féminin et le cerveau masculin. Et elle explique à propos du cerveau masculin, et c'est assez extraordinaire, c'est que l'ouïe des hommes change pendant la grossesse de leur compagne. Et ils se mettent à entendre des fréquences qu'ils n'entendaient pas avant. Et en particulier, ils entendent les fréquences qui correspondent au cri des bébés. Ah ouais. C'est un truc de fou. Mais c'est pas très surprenant quand tu sais par exemple que un certain nombre d'hommes peuvent avoir au contact de leur partenaire des symptômes de ce qu'on appelle la couvade, c'est-à-dire ils ont des symptômes physiologiques.
Ah, moi j'ai pris 10 kilos en 3
voilà,
mois.
Voilà, des signes physiologiques qui sont inhérents à la proximité avec la femme enceinte. Donc,
il paraît que ça vient du chimpanzé, ça, c'est ça.
Ou... C'est pas que ça vient du chimpanzé, c'est
pour prendre du muscle.
Non, c'est-à-dire que c'est très difficile de savoir aujourd'hui à quoi ça sert, parce que toutes ces transformations physiologiques, elles ont, sinon une finalité, du moins une utilité acquise au fil des centaines de millénaires d'évolution. Donc aujourd'hui, c'est un peu, on n'est plus dans les conditions dans lesquelles les humains vivaient il y a 10 000 ans. C'est difficile de savoir exactement à quoi ça servait à ce moment-là. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas seulement spécifique aux humains. les chimpanzés, mais aussi, enfin, tous les primates ont ce genre de phénomène. Mais il y a d'autres animaux qui ont ce genre de phénomène aussi. C'est-à-dire que le comportement des mâles dans les espèces dans lesquelles les mâles sont très proches des femelles quand elles sont sur le point de mettre des petits au monde, les comportements, donc probablement le cerveau, puisque ton comportement modifie ton cerveau et ton cerveau modifie ton comportement, changent. Parce que, effectivement, ça a une incidence sur la façon dont les petits seront soignés, tout simplement. Le fait, par exemple, qu'on est empathique et qu'on est altruiste, et tous les animaux supérieurs le sont, et même un certain nombre d'animaux non supérieurs, c'est que, tout simplement, si tu t'occupes pas au moins de tes petits, ils vont mourir.
L'espèce disparaît,
voilà,
quoi.
Voilà, l'espèce disparaît. Donc il faut que les êtres vivants soient, dans une certaine mesure, altruistes. Et des fois, il y en a qui sont beaucoup plus que d'autres parce qu'il y a des variantes. Hein. C'est comme la personnalité. Il y a un spectre, une sorte d'éventail de possibilités d'être altruiste. Il y a des gens pas altruistes du tout. Il y en a qui sont très, très, très bons. Et puis, il y a tout entre les deux, quoi. Ton cerveau a changé. Mien aussi. Mais alors, je peux pas te dire comment. Mais mon cerveau a changé. D'une part, quand mes compagnons étaient enceintes. Et puis ensuite, au contact des... Enfin, de toute façon, le cerveau humain, c'est un cerveau qui change avec tous les stimuli extérieurs. Tu vois un enfant à qui tu commences à apprendre à jouer du violon à 4 ans, ben on sait que petit à petit, à force de jouer du violon, il crée des nouvelles connexions dans son cerveau qui vont lui permettre de jouer de plus en plus vite. Donc quand t'as 17 ans, ou de la violoncelle, quand t'as 17 ans, Yo-Yo Ma a 17 ans, ça fait déjà 12 ans qu'il est en train de... je veux dire, il a travaillé, quoi, Yo-Yo Ma. C'est pas juste un truc qui est venu. Il a fallu exercer son cerveau. Et pour tout ce qui est de l'ordre du relationnel, a fortiori avec les individus qui nous entourent et donc à qui nous sommes attachés émotionnellement, forcément, ça va changer notre cerveau et nous faire faire...
De là, nous ouvrir de nouvelles aptitudes tu n'aurais pas travaillé, si tu veux.
Exactement. C'est encore une fois, de la même manière que l'activité physique modifie non seulement tes muscles, mais aussi les jonctions neuromusculaires et aussi les nerfs qui font bouger les muscles, tes interactions relationnelles, elles modifient ton cortex et l'homme de choses que tu vas intégrer. Forcément, tu vas anticiper. Quand tu as un enfant, tu n'anticipes pas, par exemple, les dangers dans la rue de la même manière que quand tu es tout seul. Tu vas commencer à faire. Alors, il y en a qui ne le font pas, mais il y a beaucoup de gens qui commencent à faire attention à des trucs auxquels ils ne faisaient pas attention avant. Tout simplement, parce qu'il faut qu'ils veillent sur le petit ou les petits qui sont à côté d'eux.
À quel point le fait d'avoir une première fille en tant que premier enfant, tu as la sensation que ça t'a transformé, toi? On parlait tout à l'heure dans le Boys Club de ton rapport à la masculinité. Effectivement, tu disais que tu avais du mal d'une manière générale avec les mecs qui méprisaient les femmes. Donc peut-être que ça devient de plus tard, mais c'est un truc que j'ai vu, moi, chez pas mal de mecs, de découvrir une forme d'empathie comme ça pour...
Mais moi, j'avais déjà de l'empathie pour les femmes parce que je vivais dans une famille dans laquelle les femmes... J'ai jamais entendu les hommes dire que les femmes étaient inférieures aux hommes ou le suggérer. Les femmes ne les auraient pas laissé faire. Parce qu'elles avaient de la tchatch, elles avaient de la personnalité, elles étaient capables de se défendre, elles étaient capables de parler beaucoup plus haut que les hommes, elles se moquaient d'eux, etc. Donc il y avait une égalité, il y avait des jeux comme ça qui faisaient qu'être un homme, être une femme, pour moi, j'étais un homme, j'étais un garçon, j'étais pas une fille. Mais je veux dire, ma sœur, qui était mon aînée, avait droit à tout mon respect et à tout mon amour, autant que mon frère, qui était mon cadet. Donc, le fait d'avoir une fille, moi, j'étais parfaitement prêt à avoir une fille ou un garçon. Ça me posait pas de problème. J'ai jamais fantasmé que je me projetterais plus dans un garçon que dans une fille.
Tu voulais pas plus spécifiquement,
non,
il y a des...
Non, d'ailleurs, il se trouve que... Alors, j'ai une histoire un peu particulière. Enfin, un de mes enfants a une histoire un peu particulière. C'est que j'ai eu une fille, puis deux garçons. Puis, avec ma seconde épouse, on a eu trois garçons. Et d'abord, on avait décidé de pas avoir d'enfants, parce qu'on en avait déjà cinq, un ou deux. Puis, on s'est dit, bon, allez, on essaye d'en avoir un ou deux. Et puis, boum, on a eu des jumeaux. Donc, et c'était deux garçons. Et alors qu'elle avait dit, non, voilà, c'est fini. Et moi, j'ai jamais poussé pour avoir d'autres enfants. Un jour, elle me dit, bon, on pourrait essayer d'avoir une fille, puisqu'elle n'avait pas de fille. Il y avait deux garçons. En tout, elle avait quatre garçons. Elle me dit, on essaye d'avoir une fille. Et on a eu un autre garçon. Et puis, il y a 3 ou 4 ans, mon troisième enfant, qui était né garçon, a fait cette transition et est devenu une fille. Ce qui est encore une autre expérience. Qui est vraiment particulière. Et j'avais pas de préjugés particuliers. Enfin, je veux dire, c'est même quelque chose dont j'avais parlé dans mes romans avant. C'est spécial de vivre ça en tant que père. Ça s'est passé, je pense, aussi bien que possible, parce qu'on était au Canada et qu'au Canada, il n'y a pas plein d'obstacles comme il y en a en France, par exemple. Mais, bon, émotionnellement, c'est quand même un peu particulier de faire... Et c'est pas le fait qu'elle devenait une fille ou une femme, parce que c'est une femme maintenant, elle a 30 ans. Enfin, c'est une adulte, c'est pas une enfant, quoi.
Oui.
C'est pas le fait qu'elle devienne une femme, c'est le fait que c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, et donc qui n'avait pas annoncé, qui n'en avait pas parlé, qui n'avait pas exprimé. Donc ça s'est fait sous nos yeux, sous mes yeux, et sous les yeux de la compagne que j'avais à ce moment-là, enfin qui était devenue ma compagne à ce moment-là, et qui est toujours ma compagne, et qui, elle, avait une histoire particulière, parce qu'elle a des mères lesbiennes, elle a une sœur qui est queer, enfin, elle est canadienne, donc elle a une vision beaucoup plus ouverte et beaucoup plus familière avec ce genre de choses que moi, et ça m'a beaucoup aidé. Mais voir quelqu'un se transformer sans avoir vraiment de dialogue, parce que c'est quelqu'un qui parle très peu, et sans pouvoir justement aussi dire je suis avec toi, mais quand même il se passe quelque chose qui pour moi est quand même spécial, quoi, de voir quelqu'un d'aussi proche et que j'ai vu naître, que j'ai vu grandir, etc., se transformer. C'était une expérience. Alors maintenant je pense plus à elle que comme elle. Donc mon cerveau a dû s'adapter aussi. Mais c'est étrange. C'est pas la même chose que de voir ses enfants grandir. C'est encore autre chose. Toute proportion gardée, comme mon ex-épouse et moi, on avait élevé 8 enfants et qu'on a des amis gays, on était prêts, statistiquement, on était prêts à ce qu'il y en ait un ou deux qui soient gays.
Oui.
On se dit, bon, puis on savait que ça poserait pas de problème, puisque je veux dire, ils ont grandi avec des oncles entre guillemets gays, donc bon, c'était un non problème. Et puis, mais ça, j'avais pas
la transidentité,
la transidentité, c'est autre chose. J'avais pas anticipé ça. Bon, je me suis adapté, mais c'est quelque chose que voilà, d'accord. Surtout venant encore une fois d'un de tes enfants qui n'a jamais dit ça, n'a jamais parlé. Ça, c'est une plus grande surprise, tu vois. Mais
vous avez eu l'occasion d'en reparler depuis, ensemble?
Oui, à quelques reprises, en particulier quand elle a eu sa chirurgie, parce que juste après la chirurgie, comme elle était encore sous l'effet... C'était après la chirurgie ou... Oui, c'était après la chirurgie. Elle était encore sous l'effet
Des médocs.
Des tranquillisants et des médicaments, ça l'a désinhibé. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup spontanément de rien. Enfin, en tout cas, pas de ses sentiments, etc. Mais donc, ça l'a désinhibé et elle a pu parler et dire des trucs, comment dirais-je, juste après, alors qu'elle ne souffrait pas et qu'elle était un peu, voilà, encore une fois, libérée, que la parole était un peu libérée. Et puis elle parle beaucoup avec ma compagne, donc je sais des choses que... et en lui disant qu'elle peut me le répéter, oui, bien entendu. Donc j'apprends des choses indirectement qui sont pas forcément faciles pour elle de me dire, pour des tas de raisons qui lui appartiennent et qui sont tout à fait correctes. Et donc, c'est encore une autre expérience. L'expérience s'arrête pas quand les enfants sont... J'ai un autre... Enfin, son frère aîné, qui est donc mon deuxième enfant, Lui, il va être père, là, incessamment sous peu, donc je vais être grand-père pour la première fois.
Bravo.
C'est aussi une expérience. Alors, en plus, là, ils ont dépassé la date. C'est toujours un problème quand t'as dépassé la date fixée par les médecins. C'est qu'il faut essayer d'éviter de devenir quelqu'un sur lequel on intervient en te disant « Ouais, alors, maintenant, faut que t'accouches. » Et ma Bru est une femme qui a beaucoup de personnalité et qui s'est jamais laissée, s'en est jamais laissée compter par les médecins. Mais quand même, bon, c'est fatigant une grossesse. À la fin de la grossesse, ouais. T'es fatigué, t'en as marre, quoi. Je me souviens des grossesses de mes compagnes.
C'est pas les moments les plus simples.
Voilà, la fin, c'est que t'en as un peu marre, et puis c'est normal que t'en aies un peu marre, quoi, t'es fatigué. L'aventure, c'est pas seulement quand les enfants sont conçus, qui naissent et qui sont petits, hein, l'aventure continue longtemps après, à plein d'égards.
Et alors, parce que j'aimerais bien revenir sur ta fille. Sur ta troisième fille, c'est ça?
Voilà. Ma deuxième fille, mais ma troisième enfant.
Ta troisième enfant, pardon.
Ma troisième enfant, qui est une fille.
Comment tu vis le fait, toi, qu'elle finisse par faire sa transition sans jamais venir t'en parler? C'est pas compliqué pour toi? T'as pas cette sensation de dire, en fait, peut-être j'ai raté, avec vraiment plein de guillemets, quelque chose dans la communication?
Non, parce que encore une fois, c'est quelqu'un qui n'avait jamais communiqué là-dessus, okay. Qui n'avait jamais éprouvé apparemment le besoin de communiquer là-dessus, qui d'ailleurs a découvert, ça je le sais, qui a découvert au Canada, parce qu'elle n'imaginait pas du tout qu'elle pouvait faire cette transition, qui a découvert au Canada au travers d'interlocutrices et d'interlocuteurs, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les jeux vidéo et qui a une communauté de nerds via Twitter et les réseaux sociaux qui est très importante, et qui a rencontré comme ça des gens. Et un jour, elle lit le fait qu'une de ses correspondantes fait sa transition, et elle se dit « Ah !» Et elle avait 25 ans. Et elle se dit « Ah, on peut faire ça !» Elle n'en avait pas l'idée.
Ah ouais, c'est sûr.
Et donc, on accepte d'être qui on est avec toutes ces bizarreries. Le jour où on se dit, ah mais attends, je peux devenir qui je suis vraiment. Et alors là, elle a commencé à faire cette transition, d'abord en changeant son aspect, et puis petit à petit en parlant, en faisant une démarche auprès des personnes concernées. Un jour, elle m'a apporté la lettre qui était la lettre écrite par les professionnels de santé qui la suivaient et qui disaient, elle relève tout à fait d'une chirurgie de réassignation. Elle a tout fait elle-même, hein, je veux dire, elle a besoin de personne, elle était adulte. Et encore une fois, au Canada, il y a des réseaux, il y a des filières qui sont tout à fait formalisées. La chirurgie de transition est prise en charge à 100% par la RAMQ, c'est-à-dire la Sécurité sociale québécoise. Bon, voilà, c'est tout. Je veux dire, un point, c'est tout. La seule clinique privée de Montréal, du Québec, parce que tous les organismes hospitaliers sont publics au Québec, sauf cette clinique. La seule clinique privée, c'est la clinique spécialisée dans la chirurgie de réassignation. Elle a des accords d'ailleurs avec la RAMQ. La preuve, c'est que tout est pris en charge. Mais elle est réputée dans le monde entier. Et par exemple, elle a une amie qui elle aussi a fait sa transition, qui est américaine, qui a été opérée à Chicago. Et ça s'est pas passé moitié, voire le dixième aussi bien de la manière dont ça s'est passé pour elle à Montréal. Donc voilà, elle a pu le faire aussi parce que l'environnement était favorable, et évidemment j'en ai bénéficié aussi, parce que quand ton enfant fait ce genre d'itinéraire, toi tu veux que ça se passe le mieux possible, et puis quand t'es dans un environnement où ça se passe bien, c'est tout ça de soucis que tu te fais en moins, quoi.
Est-ce que si t'avais un conseil à donner à des parents qui se retrouvent face à des enfants, alors comme tu disais, adultes ou peut-être moins adultes, oui. Hein, ou adolescents, qui viendraient comme ça vers...
Moi, ma philosophie, elle est toujours la même, c'est-à-dire que l'enfant ne m'appartient pas. Enfin, c'est je suis son comment dirais-je, sa sécurité jusqu'à ce que l'enfant soit autonome, mais fondamentalement, comme il n'a pas choisi de venir au monde, ou elle n'a pas choisi de venir au monde, c'est ma responsabilité de faire en sorte que cet enfant devienne un ou une adulte, mais il ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas. Elle n'est pas mon appendice. Ça, c'est ma philosophie. Par conséquent, mon idéal, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, il ou elle n'ait plus besoin de moi. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de lien d'attachement, mais ça veut dire qu'il n'a pas besoin de moi. Mais je pense ça de ma compagne, je pense ça de mes amis, je pense ça de... Donc, à mon avis, la meilleure chose, alors c'est une philosophie qui n'est pas forcément celle de tout le monde, mais au moins, on peut toujours se dire que si on veut avoir de bonnes relations avec ses enfants.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il faut pas les traiter comme ses amis quand ils sont enfants, parce que c'est des enfants, mais quand ils deviennent des adultes, il faut qu'on soit amis avec eux. C'est-à-dire amis au sens où on accepte qu'ils sont comme ils sont, où elles sont. Et ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'être là le jour où ils ou elles ont besoin de soutien. Mais éviter de les juger, finalement, parce que évidemment on a peur, évidemment on se sent mis en cause, mais c'est leur vie, c'est pas la nôtre. Moi j'avais déjà fait ça avant, hein, avec ces aînés, enfin, d'ailleurs j'ai fait ça avec tous, c'est-à-dire je leur ai dit, je suis médecin, il se trouve qu'en plus moi mon métier de médecin me donne à connaître plein de choses qui concernent la sexualité, les maladies de la sexualité, les problèmes divers et variés. Je leur ai donné toute l'information dont ils pouvaient avoir besoin, je leur ai dit qui pouvait aller voir s'ils avaient besoin de quelque chose, et je leur ai dit, si un jour vous avez un problème et un pépin, si vous me faites confiance pour venir m'en parler, sachez que, un, je ne vous jugerai pas, et deux, je ne l'utiliserai pas contre vous. Et il m'était arrivé auparavant que deux ou trois de mes enfants viennent me voir pour me parler de choses très intimes qui relevaient de leur vie amoureuse ou d'une situation dans laquelle ils s'étaient fourrés, en me disant qu'est-ce que je fais, j'ai la trouille, ou je me sens pas bien. Et à chaque fois, j'ai dit on va faire ce que je ferais avec n'importe quelle personne qui viendrait me demander conseil en tant que médecin. Ça m'empêchait pas d'avoir peur. Mais voilà. Et puis bon, il se trouve que tout s'est toujours bien arrangé, mais aussi parce que j'ai pas non plus dramatisé à l'excès ce qui pouvait leur arriver. Donc, moi je dirais que la meilleure chose qu'on puisse faire pour ses enfants, c'est d'être là pour eux et pour elles, sans porter de jugement. Alors je sais que c'est pas forcément facile, parce que si par exemple on a un ou une enfant gay et qu'on est vraiment très mal à l'aise à l'idée d'avoir un enfant gay, c'est pas évident de changer. Mais d'un autre côté, cet enfant, est-ce qu'il ou elle est gay, ou est-ce que c'est d'abord votre enfant? Après tout, sa vie sexuelle ne regarde qu'elle ou lui. Vous n'avez pas envie de partager votre propre vie sexuelle avec vos enfants, donc ses préférences ou son orientation ou son... ça ne nous regarde pas fondamentalement. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux, et puis qu'ils soient heureux et qu'ils nous le fassent partager, et que nous, on puisse leur faire partager des choses pour lesquelles on est heureux. Donc moi, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est ça, c'est ne les jugez pas. Jugez pas et soyez là. Ça va pas être facile. Mais in fine, ça sera toujours plus satisfaisant que d'essayer de guider leur vie, enfin de diriger leur vie en leur disant ce qu'ils doivent être. Parce que fondamentalement, vous-même, enfin soi-même, on a du mal à être soi-même. Et on n'a pas forcément envie que les autres s'en mêlent. Donc de quel droit on va se mêler de celles de nos enfants qui, encore une fois, n'ont pas demandé à venir au monde. Hein, et donc, voilà, je crois qu'on est toujours dans une perspective qui est « j'ai fait cet enfant, donc je suis responsable de lui, donc ben non, dans une certaine mesure, vous êtes responsable de sa venue au monde, mais vous n'êtes pas responsable de lui, vous êtes responsable de sa sécurité, de son confort tant qu'il est... » Mais après, une fois que c'est un adulte, vous n'êtes pas responsable de... C'est vit sa vie ou elle vit sa vie comme elle l'entend.
Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe au Québec, mais il y a, je pense qu'il y a aussi tout un aspect de social, si tu veux.
Oui,
oui. Notamment quand les parents entendent ce genre de nouvelles, où ils peuvent se dire qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que les voisins vont penser, qu'est-ce que la famille va penser, etc.
Que ce que les autres... Bon, il se trouve que, je veux dire, je crois que c'est la même chose. C'est... Bon, pour ce qui concerne ma fille, il se trouve que la famille de sa mère a pris les choses extrêmement bien. Bon, et puis voilà, puis il n'y a pas eu de discussion. Je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est dire, ben, quoi que les autres en pensent et te disent, moi je suis là. Et puis moi je suis là et je suis là de manière inconditionnelle. Mais c'est pareil, j'ai été élevé par un père qui disait toujours, même si mes fils deviennent des assassins, ça restera de mes fils. Bon, quand t'entends ça, tu te dis, bon, je vais pas devenir un assassin parce que je veux pas que mon père il soit malheureux, quoi, que je sois un assassin. Mais en gros, c'était ça que ça voulait dire. C'est
l'amour inconditionnel, quoi.
L'amour inconditionnel et puis le soutien, c'est après tout, encore une fois, oui, c'est de la faute de nos parents si on est là. Pas de notre faute.
C'est un truc qui est compliqué, je pense, à saisir de cette histoire de responsabilité d'avoir mis des enfants au monde et qu'en fait, ils n'y peuvent rien s'ils sont là aujourd'hui.
C'est pas quelque chose à quoi j'ai pensé il y a longtemps. Je n'ai pensé à ça qu'il y a quelques années, quoi. Je me suis rendu compte de ça. C'est dire à quel point on est aussi guidé par des pulsions de reproduction dans lesquelles on ne pense pas. On est amené à se reproduire. Et on trouve ça normal parce que c'est comme le désir sexuel, on trouve ça normal. Les gens qui n'ont pas de désir sexuel, on a tendance à penser qu'ils sont anormaux. Mais non, ça fait partie du spectre de ce qu'on peut ressentir. Et c'est pareil, le désir de se reproduire, bah, il est variable d'une personne à une autre. Et toutes les intensités de désir ou de non-désir sont, entre guillemets, normales et physiologiques, puisqu'il n'y a pas de normes. Mais moi, par exemple, je me suis rendu compte que oui, mon désir de me reproduire ou d'avoir des enfants avec une femme en particulier, c'était pulsionnel, c'est pas quelque chose de rationnel. Je pouvais très bien y mettre une soupape, et c'est ce que j'ai fait à de nombreuses reprises. Bon, donc... on peut, mais je réfléchissais pas au fait que, après tout, hein, encore une fois, si je mets un enfant au monde, m'a rien demandé le gamin. Maintenant, depuis peut-être 8-10 ans, je me rends compte de ça. Et je me sens beaucoup plus responsable dans une certaine mesure, parce que il y a des angoisses existentielles dont tout le monde pourrait se passer. et avec lesquels, quand tu vois tes enfants, que tes enfants en sont pris à leur tour, ben, il faut que tu aies réfléchi à ça avant et que tu puisses leur dire oui, je comprends exactement ce que tu ressens, je le ressens aussi et c'est pas facile et voilà, c'est aussi une manière de les accompagner, de leur dire oui, ce que tu vis, je l'ai vécu et je vois à quel point c'est compliqué. C'est pas simple.
Tu parlais tout à l'heure, on parlait rapidement d'éducation sexuelle, oui, dans le Boys Club, où tu disais que pour toi, en tant que parent, c'était pas du tout ton rôle.
Mais j'ai fait des trucs avec mes enfants quand même. J'ai fait des trucs avec mes enfants. C'est-à-dire, j'ai fait un truc en particulier avec les grands, et je crois que je l'ai refait avec les plus jeunes après. C'est que les grands, c'est-à-dire mes deux aînés et les deux aînés de ma seconde épouse, je les ai réunis. Donc il y avait une fille et trois garçons. Je les ai réunis, ils avaient 12, 13 ans. Ils avaient quand même des notions déjà, parce qu'on leur avait fait un peu d'éducation sexuelle à l'école. Je leur ai dit, voilà, je vais vous apprendre à tous à poser un préservatif sur une banane.
Génial.
Et donc on a rigolé avec la préservation. Bon, j'ai fait quelques petites explications. Et puis je leur ai dit, voilà, il y aura toujours dans la salle de bain, dans les toilettes à côté de la salle de bain, il y a une étagère, il y aura toujours une grande boîte en carton avec des préservatifs en vrac. Donc on mettait 40 préservatifs dans la boîte. Et puis après, quand il y a eu le Norlevo, enfin la pilule du lendemain, il y avait des boîtes de pilule du lendemain, et il dit, le jour où vous n'allez pas en avoir besoin la semaine prochaine, vous n'avez pas l'âge, mais le jour où vous aurez besoin d'avoir des préservatifs, vous pourrez aller en chercher. Nous, tout ce qu'on fera, c'est vérifier qu'il y en a toujours. Et quand il n'y en aura plus, on en remettra. Mais on ne posera pas de questions. On ne demandera pas qui a pris les préservatifs, qui ne les a pas pris. Je dirais même que si ça vous arrive, comme moi ça m'est arrivé, que deux de vos camarades viennent se glisser en loose-dé dans une, parce qu'on avait une grande maison avec beaucoup de chambres, ouais. Viennent se glisser en loose-dé dans une chambre parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit pour faire des galipettes, soyez gentils, dites-leur qu'il y a des préservatifs là, parce que ça me ferait de la peine qu'une de vos copines se retrouve enceinte après avoir fait des galipettes sur un de vos lits sans savoir qu'il y avait des préservatifs dans la salle de bain. C'est dommage. Bon, donc, vous pouvez les bruiter, c'est-à-dire que les préservatifs, s'ils ne vous appartiennent pas, si quelqu'un en a besoin et que vous voulez en donner, s'il vous plaît, faites-le. Bon.
Fournisseur officiel de préservatifs de tout le collège.
Pas forcément, mais en tout cas en cas de besoin. Ouais. Bon. Et puis, c'est ce qu'on a fait. C'est... Et puis moi, je regardais de temps en temps s'il en restait, puis quand il en restait plus, je remettais. Donc, alors après, en plus, j'ai fait un peu plus fort que ça, parce que j'ai même écrit un livre sur la contraception. Et j'aime beaucoup cette histoire, parce que le jour où le livre sur la contraception arrive, c'était en 2001, ma fille aînée avait. Elle avait 20 ans.
Oui, c'est
ça. Elle avait 20 ans, elle est née en 81. Et elle me dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est un livre sur la contraception. Alors, ils étaient 8 à ce moment-là. Elle regarde, elle me dit, il était temps. Alors, je lui dis, t'as raison, ma petite fille, mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu la contraception, vous seriez 15. Bon. Et donc, moi j'aime beaucoup cette histoire. Et donc, évidemment, à partir du moment où tu as écrit un livre sur la contraception qui traîne un peu partout et que les gamins ils peuvent regarder dedans, où il y a quand même aussi des trucs un peu sur la sexualité, etc., où il n'y a pas de. Il n'y a pas d'interdit, on vérifie pas ce que les gamins ils regardent sur l'ordinateur, s'ils ont besoin de s'informer, ils s'informent, de toute façon ils vont s'informer. je me souviens que ma fille aînée lisait une revue qui s'appelait Jeune et Jolie.
Ouais.
Et alors, elle me dit, regarde, c'est bien, etc. Et puis je regarde le courrier des lecteurs et dans le courrier des lecteurs, il y avait une question du style, bon, est-ce que faire une fellation à un garçon, c'est avoir un rapport sexuel avec lui? Wow! Alors, moi, j'étais pas prêt. Je dis, ah bon, bah, dis donc, ils abordent les sujets de front dans Jeune et Jolie. Elle me dit, oui, on apprend des trucs, etc. Bon. Elle n'était pas plus traumatisée que ça. Moi, je trouvais ça bien qu'elle puisse parler des choses, appeler un chat, et parler des choses directement. Encore une fois, le jour où il y en a, où l'un ou l'autre a eu besoin de mes conseils en tant que médecin et que père compréhensif, ils ont pu venir et puis voilà. Et je leur en ai jamais reparlé après parce que je n'utilise pas ce que je sais. Et j'ai fait comme si ils avaient été n'importe quel patient qui vient me voir une fois, qui me demande un conseil et qui repart soulagé parce que je lui ai dit comment il pouvait faire face à sa situation. Donc voilà, je crois que c'est, moi j'ai toujours essayé d'être bienveillant avec mes enfants. Je dis pas que j'étais un père parfait parce que comme la vie n'est pas parfaite, on peut aussi faire des tas d'erreurs et faire des tas de choses extrêmement blessantes sans l'avoir voulu. Et puis, plus tard, on essaye de faire en sorte d'entendre ses enfants le dire et puis de le recevoir et de dire oui, de faire amende honorable.
Il y a des choses que tes enfants t'ont reproché en grandissant?
Oui, bien sûr, il y a des choses que mes enfants m'ont reproché en grandissant.
C'est
très sain. Oui, c'est très sain. C'est un peu compliqué d'en parler parce que je encore une fois, je veux pas.
Ça les concerne peut-être.
Ça les concerne, puis ça concerne d'autres personnes, donc je veux pas non plus. Comment dirais-je, avoir l'air de porter des jugements ou d'attribuer des responsabilités à d'autres que moi. Mais effectivement, je trouve ça sain qu'ils viennent me les reprocher à moi et me dire, voilà, il y a ça que t'as fait qui n'était pas correct. Parce que c'est aussi libérateur pour eux. Et puis c'est ça aussi, être un parent, c'est accepter d'entendre que... et je trouve que c'est très, très sain que les enfants sachent que les parents ne sont pas parfaits. Parce que si... Moi, j'ai longtemps pensé que mon père était parfait, et du coup, ça m'a rendu les choses difficiles, parce que être un père parfait quand on a eu un père parfait, c'est impossible. Le jour où j'ai commencé à comprendre que mon père n'était pas parfait, ça a levé la pression, quoi. J'ai accepté de ne pas être un père parfait non plus.
Tu t'es rendu compte de ça quand ?
Oh, je me suis rendu compte de ça progressivement, en écrivant, en entendant les gens me parler de lui, etc. Et donc c'est pas non plus quelque chose qui s'est fait un jour, c'est plus un cheminement, c'est plus une ouverture progressive à ce type d'idée.
C'était avant que tu sois père ?
Non, c'était après. C'était après. Non, avant que je sois père, non. Je pense que j'étais encore d'une semi-inconscience, disons... Encore une fois, le jouet de mes pulsions biologiques, tout ce que tu veux, et en même temps de mes idées. On a les idées qui deviennent moins schématiques et moins dogmatiques avec le temps. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Mais quand on est un jeune homme, je pense qu'on... on a envie de croire que les idées qu'on a sont des idées solides, absolues et incontournables. Après, ben voilà, on accepte le fait que ben non, c'est pas si simple que ça, et c'est aussi moins stressant, et c'est aussi moins, enfin, lâcher prise par rapport à des choses qu'on croyait dures comme fer. C'est plutôt ça, enfin ça permet plutôt d'être plus heureux, parce que être plus souple, ça veut dire aussi ne plus accorder autant d'importance à des choses qui effectivement sont théoriquement incontournables, mais qui en fait ne le sont pas.
C'est quoi les choses sur lesquelles t'as appris à lâcher prise avec le temps?
Par exemple, avec la peur qu'il pouvait arriver quelque chose à mes enfants dès qu'ils traversaient la rue.
T'avais peur ?
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, j'avais peur. Bien sûr, moi j'ai toujours eu peur pour mes enfants. Je veux dire, mon père avait encore plus peur que moi, parce que pour des raisons. Et on se moquait de lui. Hein, mon père, par exemple, mon frère et moi, on avait une maison avec un grand jardin. Et on n'avait pas le droit de faire de vélo en dehors du jardin. Alors qu'il y avait une porte pour sortir, aller dans la rue, nos copains et tout. Donc à 13-14 ans, on faisait du vélo seulement dans le jardin. C'était grand, mais enfin quand même, c'était le jardin. C'était pas... Et alors...
Parce qu'en plus, à l'époque, je pense qu'il y avait une...
En plus, il y avait moins de voitures, voilà, il n'y avait personne dans la rue quand on faisait du vélo. Mais non, il avait peur. Et un jour, il m'a expliqué qu'en fait, quand il était étudiant en médecine, il avait été externe au service de traumatologie infantile. Et donc, il voyait arriver des gamins avec des fractures partout. Donc, effectivement, ça le terrorisait, l'idée que nous, en vélo... Bon, cela étant, ça m'a sauvé la vie, parce que le jour où j'ai obtenu, après l'avoir travaillé au corps pendant longtemps, d'avoir une mobylette, il m'a dit, ouais, t'auras une mobylette, mais tu mets un casque. C'était avant que le casque soit obligatoire. Alors, j'ai râlé, mais j'ai dit, bon, je vais avoir la mobylette, je m'en fous, je mets le casque. Tout le monde s'est foutu de ma gueule à l'école. Mais un jour... Je me suis cassé la gueule en mobylette parce qu'une voiture m'a frôlé de trop près, et le casque, il a pris un trou. Et je préfère que ce soit le casque qui prenne un trou. Donc, à la fois, je me suis beaucoup moqué de lui à cause de le. Ou alors, un jour, il nous a dit, vous pouvez aller faire du vélo, mais juste autour du pâté de maison. Et le pâté de maison, c'est tout petit. Quand j'ai passé mon permis, je suis arrivé devant la porte, il sortait pour aller faire ses visites. Je lui ai dit, tu me donnes les clés, je vais conduire. Il me dit, ah bon, tu m'emmènes où ? Et je lui ai fait faire le tour du pâté de maison en voiture. J'ai dit, voilà ce qu'on avait le droit de faire. Ça l'a fait beaucoup rigoler. Mais bon, je veux dire, il avait très peur, mais il avait très peur pour de bonnes raisons. Et bon, après moi, j'avais moins peur quand même parce que je voyais. Mais enfin, j'avais peur quand même. Donc, voilà, pendant longtemps, mes enfants, je les ai pas laissés aller à l'école qui était au bout de la rue, tout seul à pied, alors que ils auraient très bien pu. Ils étaient pas fous, les gamins. Ils auraient pas traversé devant les voitures. Bon. Mmh. Mais je les ai pas laissés. Le jour où ils m'ont dit, papa, tu sais, on peut aller à l'école tous les deux. Bon, d'accord. Et puis je suis resté au bout de la rue, je les ai regardés. Bon. Puis j'ai dû faire ça trois fois et après je me suis dit, bon, ça va, tu te calmes. Mais c'est toute une gymnastique, ça vient pas spontanément. Ça nous est arrivé, mon ex-épouse et moi, de nous endormir sur le canapé alors que nos aînés, qui avaient 18 ans, sortaient et qui demandaient l'autorisation pour sortir alors qu'ils pouvaient. Ils disaient, est-ce que ça vous ennuie pas si on sort? Ben non, sortez, bien sûr. Et puis on s'endormait sur le canapé, et puis à minuit et demi, on se réveillait et on se disait, merde, on les a pas entendus rentrer, qu'est-ce qui s'est passé, où ils sont, etc. Et puis on commençait à se monter le bourrichon jusqu'au moment où il y en avait un des deux qui montait dans la chambre et qui voyait qu'ils étaient rentrés tranquillement, qu'ils étaient couchés. Et on leur dit, mais pourquoi vous nous avez pas dit? Ben, on voulait pas vous réveiller, vous dormiez sur le canapé. Donc, <c'est... rire> voilà, il y a des choses très drôles. Mais ces trucs-là, ça peut arriver que quand on essaye d'être, voilà, de pas être trop obtus, pas trop bienveillant, et pas avoir trop peur, quoi. Mais c'est pas facile de pas avoir peur. C'est pas facile, hein. Tout est fait pour nous faire peur en tant qu'individu, en tant que parent. Donc se raisonner pour dire, mais ta peur, là, elle n'est pas justifiée, ça demande beaucoup de travail. Alors bon, moi j'ai appris, j'ai trouvé des moyens d'apprendre à ne pas avoir peur.
C'est quoi les moyens que tu as appris?
Ben, si tu veux, c'est un truc tout bête, c'est si tu as peur que tes enfants soient enlevés par un inconnu, ben, tu lis les statistiques. Puis là, tu dis, bon, allez, ça va. Il y a moins de chances. En revanche, je veux dire, si je le... Je sais pas, moi. Oui, si je laisse monter à moto sans que, ou à mobylette sans qu'ils mettent un casque, là, oui, là, il y a des risques. Mais aller, tu vois, rentrer dans un quartier où il se passe jamais rien à minuit, voilà, on va arrêter de déconner. Surtout aujourd'hui, maintenant, où ils ont des téléphones cellulaires, des machins, etc. Il faut regarder un peu ce qu'est la réalité, c'est-à-dire ne pas laisser ses propres craintes prendre la place d'une réalité. Et puis aussi faire confiance aux enfants, parce que l'immense majorité, alors il y en a qui prennent des risques, mais l'immense majorité des enfants, ils n'en prennent pas. Ils ont un sens de l'autopréservation qui est grand. Et on peut leur dire, écoute, je me fais du souci. Et c'est important de dire à ces enfants qu'on se fait du souci, pour qu'ils le sachent, et de leur dire, pas pour qu'ils se culpabilisent, mais pour qu'ils sachent que c'est un souci pour nous. Et on a la surprise de constater que les enfants nous sont reconnaissants de savoir qu'on se fait du souci pour eux, et qu'après ils prennent des précautions pour qu'on s'en fasse pas. Et en particulier, de pas se mettre dans des situations où on pourrait se faire du souci. C'est-à-dire nous appeler pour... Bon, en ce moment, j'ai un de mes fils qui vit chez nous. Et il a 25 ans, hein. Mais il est drôle parce que quand il s'en va le soir, puis qu'il dit « je vais rentrer tard », il dit « vous fermez derrière moi, parce que j'aime pas savoir où vous vous couchez et que la porte est ouverte en bas.
» Les rôles sont inversés.
Bon, donc, voilà, donc... Mais je sais qu'il a, ben il a été élevé comme ça, donc il a le souci de l'autre. Si on a le souci d'eux, qu'on leur dit ce souci, il est peut-être démesuré, mais il est bienveillant. Et je n'ai pas le souci de toi pour t'enchaîner. Tout ce que je veux, c'est être rassuré et qu'on n'est pas trop et qu'on travaille aussi, parce qu'il faut travailler aussi sur sa peur. Hein, ouais. Je veux dire, c'est pas à eux de travailler sur notre peur, c'est à nous de travailler sur notre peur. C'est notre responsabilité, notre peur.
C'est nous les adultes, après
c'est
tout.
Nous, oui, c'est nous les adultes, mais même quand ils seront adultes.
Bien sûr.
Si tu enchaînes les autres à ta peur, c'est pas bien. Il faut que tu travailles sur ta peur. Et eux, ils vont travailler sur la leur. Donc il y a un travail toujours personnel à faire. Mais leur dire sincèrement, dire voilà, ça ce qui t'arrive là, je suis inconfortable avec ça pour tel ou tel type de raison. ça change pas l'affection que j'ai pour toi, mais sache que si des fois je suis un peu je sais pas comment dirais-je, pas facile dans ma façon de répondre, c'est parce que je me sens inconfortable. Voilà, maintenant c'est dit.
De réussir à se rendre soi-même humain quelque part, et comme tu disais, peut-être imparfait, c'est
oui, de dire je suis quoi. Voilà, enfin humain, on est humain, mais de dire je m'assume en tant qu'imparfait. Et puis ça aide parce que du coup on n'est plus dans les présupposés, on n'est plus dans les présomptions, on est dans voilà, tu peux pas savoir ce que j'ai dans la tête, donc je vais te le dire. Toi, si tu veux me dire ce que tu as dans la tête, tu as le droit et je l'entendrai. Si tu veux pas me le dire, tu as le droit et c'est correct. Et voilà, essayons de vivre avec ça ensemble aussi bien que possible, quoi.
Tu disais tout à l'heure que tu allais être grand-père.
Oui, incessamment sous peu, oui.
Comment t'appréhendes ce nouveau
moi,
rôle?
Je l'appréhende pas d'une manière particulière. Moi, encore une fois, j'adore les bébés, donc je suis... je suis tout à fait prêt à tenir un bébé. Mais j'ai pas, encore une fois, j'ai pas plus de... Je pense que la majorité de mes enfants n'ont pas le désir d'avoir des enfants. Lui, il en avait, et sa compagne aussi. Les autres n'ont pas l'air d'en avoir, ils en auront peut-être pas. Je vois pas ça comme quelque chose... Je le prends pas personnellement.
Okay.
C'est-à-dire, pas plus que je n'ai pris personnellement qu'aucun de mes enfants ne devienne médecin, par exemple.
Oui, t'as pas pris ça comme un affront.
Ben non, parce que je voudrais pas qu'ils fassent quelque chose qu'ils ont pas envie de faire ou qu'ils le fassent pour moi. Encore une fois, ils m'appartiennent pas, c'est pas mes objets. Mais donc là, je suis ravi parce qu'ils ont l'air ravis, donc je suis ravi pour eux. Je suis ravi parce que c'est une belle aventure, c'est joli quoi. Je sais pas ce que c'est si c'est un garçon ou une fille parce qu'ils ont pas voulu savoir. Moi, comme on dit, hein, le principal, c'est qu'ils sont en bonne santé, cet enfant. parce que c'est vrai, c'est ça qu'on veut.
Bien sûr.
Après, je trouve ça rigolo, la perspective que d'ici, 8 ou 10 ans, le gamin viendra peut-être chez moi en vacances, ou la gamine. C'est rigolo, c'est sympa, c'est sympathique. Je suis sûr que j'aurai des choses à lui apporter. Je serai ravi de lui apporter ce que je peux lui apporter. Mais à part ça...
Tu ne te projettes pas encore plus que ça?
Non, ce que je peux dire, c'est que je suis bien entendu inquiet parce que dès qu'il y a une nouvelle personne qui vient au monde, tu as plein de raisons d'être inquiet. Mais que je ne vais pas être inquiet à leur place. Je pense que mon rôle, c'est plus de les rassurer pour les choses pour lesquelles on peut ne pas s'inquiéter et puis de les soutenir s'il y a des choses inquiétantes qui surviennent parce que ça peut arriver. Voilà, mais je ne le prends pas comme si c'était mon enfant. C'est pas mon enfant, c'est leur enfant. Et encore une fois, si je peux donner un coup de main, tant mieux. S'ils ont pas besoin de mon coup de main, c'est tant mieux aussi. C'est parfait.
Merci beaucoup, Martin.
Ben merci à toi, merci de m'avoir donné la parole.
Et puis tu vois, t'es un super daron.
Ah, c'est gentil. Écoute, c'est à mes enfants de dire ça. Je leur laisse la responsabilité de penser ou de le dire s'ils veulent.
Oui, finalement, c'est à eux de juger, quoi.
C'est à eux de juger.
Merci beaucoup, en tout cas.
Je t'en prie.
À bientôt.
Au revoir.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.